France Musique. Musicopolis. Napoléon, la bande-son de l'Empire. Nous sommes le 2 décembre 1804, à Paris, devant Notre-Dame. Il fait un froid glacial. Le bulletin météo de l'Observatoire annonce ciel très couvert, vent nord, brouillard, température moins 3 degrés. Toutes les heures depuis minuit, on a tiré des salves d'artillerie. À 6 heures, les cloches ont sonné à toute volée. Dès ce moment-là, les Parisiens ont commencé à affluer. Il y a tellement foule que l'armée a déjà dû remettre un peu d'ordre. À 8 heures, les musiciens arrivent dans la cathédrale. Ils sont 400. Ils devront animer la longue cérémonie. Ils auront à jouer quelques 19 000 pages de musique qui ont été préparées par un pool de 8 copistes. Ils répètent peut-être encore pendant que les derniers préparatifs s'achèvent. Avec un froid pareil, il faut bien chauffer les instruments. À 9 heures, le pape, qui a été invité à officier, sort du palais des Tuileries. Il se rend jusqu'à Notre-Dame. Il entre au son du Tu es Petrus. Que le pape est entré dans Notre-Dame, Napoléon et Joséphine se préparent. 40 kilos de vêtements impériaux à enfiler. À 11h, ils sortent des Tuileries au son de nouvelles salves d'artillerie. Comme le raconte Constant, le valet de chambre de l'empereur, leurs majestés sont dans une voiture toute éclatante d'or et de peintures précieuses, traînée par 8 chevaux de couleur Isabelle, caparaçonnée avec une richesse extraordinaire. Qu'on se figure 10 000 hommes de cavalerie d'une superbe tenue, que l'on songe au nombre des équipages, à leur richesse, à la beauté des attelages et des uniformes, à cette multitude de musiciens jouant les marches du sacre au bruit des cloches et du canon, qu'on ajoute l'effet produit par le concours de 4 à 500 000 spectateurs. Et l'on sera bien loin encore d'avoir une juste idée de cette étonnante magnificence. La cérémonie du sacre de Napoléon et Joséphine à Notre-Dame, puisque c'est bien ce dont il s'agit, va durer près de 4 heures. Les 3 maîtres de chapelle de leur majesté ont participé à la composition des œuvres requises, Paisiello, Rose et Le Sueur. Pour les interpréter, les premiers talents de Paris sont là. Nous avons, en la personne de Constant, valet de chambre de Napoléon, un fidèle reporter. Voici comment il décrit les forces musicales en présence. Deux orchestres à quatre chœurs, composés de plus de 300 musiciens, étaient dirigés l'un par M. Persuit, l'autre par M. Ray, tous deux chefs de la musique de l'empereur. M. Laïs, premier chanteur de Sa Majesté, M. Kreutzer et M. Bayot, premier violon du même titre, s'étaient adjoints tout ce que la chapelle impériale, tout ce que l'opéra et les grands théâtres lyriques possédaient de talents supérieurs en instrumentistes aussi bien qu'en chanteurs et chanteuses. La musique militaire était innombrable et sous les ordres de M. Le Sueur. Elle exécutait des marches héroïques, dont une, commandée par l'empereur à M. Le Sueur pour l'armée de Boulogne, est encore aujourd'hui, au jugement des connaisseurs, digne de figurer au premier rang des plus belles et des plus imposantes compositions musicales. Quant à moi, cette musique me rendait pâle et tremblant. Je frissonnais par tout le corps en l'écoutant. Du sacre. Bon, voilà, bonne chose de faite, se dit Napoléon. Pendant que les Parisiens se réjouissent, enfin plus ou moins, puisque ce que je vous ai lu est évidemment un rapport assez officiel. Donc, pendant que les Parisiens se réjouissent, il va pouvoir rentrer dîner tranquillement avec Joséphine. Le lendemain, des animations auront lieu sur la place de la Concorde, où sont installés sous de grandes tentes des parquets de danse, des scènes pour présenter des spectacles, et où bien sûr la fête se terminera par un magnifique feu d'artifice. Mais laissons là toutes ces solennités. Je vous ai annoncé comme sujet Napoléon, la bande-son de l'Empire. Il était donc logique de commencer par le sacre de l'empereur. Mais à présent, faisons plus ample connaissance avec l'homme. D'après ce qu'en disent ses contemporains, Napoléon est extrêmement sensible à la musique, en particulier à la musique vocale, et particulièrement la musique vocale italienne. Un goût qui lui vient sans doute de la proximité de sa Corse natale avec l'Italie et de ses séjours dans ce pays dès 1796, lorsqu'il y est envoyé par le Directoire à la tête des armées révolutionnaires. Parmi les compositeurs italiens, son préféré est Paisiello. C'est à lui que l'empereur a confié la tâche d'écrire la messe de son couronnement, après l'avoir empruntée, si l'on peut dire, au roi de Naples dont il était maître de chapelle. Mais Paisiello ne s'est pas senti à son aise à Paris, sous l'œil de Napoléon, et il est rentré en Italie avant même le sacre. Napoléon donc aime la musique vocale, surtout italienne, et il aime les chanteurs. Et beaucoup les chanteuses. Il a ramené de sa première campagne d'Italie Madame Grassini, contralto. Il aurait voulu garder à Paris ensuite la Catalani, une soprano coloratour, mais qui a préféré la liberté anglaise au mont d'or promis par l'empereur. Parmi les Français, il adore Pierre Gara, qui s'est formé à l'école italienne et qui le ravit lorsqu'il chante les airs d'Orphée de Gluck. Napoléon a une telle admiration et un tel respect pour les grands chanteurs qu'il va jusqu'à honorer de la couronne de fer le castrat Crescentini, ce qui heurte vivement les militaires dignitaires de cet ordre. Napoléon a toujours ressenti la musique fortement, au plus profond de lui-même. Non seulement il rayonne de plaisir, comme l'a dit un témoin en écoutant le castrat Crescentini, mais il est vraiment persuadé que la musique doit être soutenue par le pouvoir. Il écrit aux inspecteurs du conservatoire que parmi les beaux-arts, la musique est celui qui exerce la plus grande influence sur les passions et que le législateur devrait l'encourager. Il ajoute qu'une composition musicale créée par une main de maître a un puissant effet sur les sentiments et même davantage qu'une œuvre littéraire qui ne convainc que notre raison.
Tutte
Napoléon a engagé plusieurs maîtres de chapelle. J'ai parlé de Paisiello, chargé de la messe du Sacre, et de Le Sueur, qui a dirigé ladite messe et qui a été nommé à la succession de Paisiello en 1804. Ferdinando Paer, encore un Italien, a été nommé, lui, en 1807. Il est devenu ensuite le directeur de l'Opéra Comique, puis du Théâtre Italien. Ces trois-là font partie des préférés de l'empereur, des plus chers à son cœur. Mais comme chef de l'État, il doit aussi tenir compte des goûts du public pour d'autres compositeurs. Dans la bande-son de l'Empire, il nous faut par conséquent intégrer aussi, par exemple, la musique de Méhul. Sur la recommandation des membres de l'Institut, Napoléon accorde à Joseph de Méhul le prix pour la meilleure œuvre donnée à l'opéra comique depuis 10 ans. Mais lui-même n'apprécie pas totalement cette musique qu'il juge trop savante. Cependant, il est bien obligé de récompenser le compositeur pour ses nombreuses œuvres patriotiques et les cantates en son honneur. De même, l'empereur donnera à l'Avestale de Spontini le prix décennal pour le meilleur opéra. Une musique qui n'est pas non plus la plus chère à son cœur, mais qui pourtant convient bien à son règne. En fait, en cherchant les musiques de la bande-son de l'Empire, on s'aperçoit que beaucoup d'œuvres de l'époque ne sont ni jouées ni enregistrées. On dirait bien qu'il y a, pour la petite trentaine d'années qui suit la Révolution, une sorte de méfiance de la part des musicologues et des interprètes. Certes, on aurait préféré que Beethoven, qui avait voulu dédier sa troisième symphonie au consul Bonaparte, devienne le musicien préféré de l'empereur Napoléon. Mais ça ne s'est pas fait. Et donc, ce n'est pas avec la symphonie héroïque que nous terminerons, mais avec le chœur final de la Vestale de Spontini. Tout ce qu'il y a d'impérial. Le chœur final de la Vestale de Gaspare Spontini, avec Jacques Mars, le pontife, Michel Lebris, Julia, le chœur de l'ORTF, l'orchestre lyrique de l'ORTF, sous la direction de Roger Norrington, enregistré en avril 1975. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Benjamin Vignal pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.